7 mars à 10h30. C'est formidable. Motivation de tous les jeunes. Jamais, jamais il y a eu autant de jeunes et de manifestations. Bravo aux jeunes qui se mobilisent. Bravo.
Oui, bonjour. Je suis à la manifestation de Nice. Il y a du monde.
Salut Daniel, juste pour dire qu'à Perpignan, au dernier pointage, nous sommes 5000 pour l'abrogation du CTE. Et puis, j'ajoute à titre personnel l'abrogation de 2020, l'abrogation de Sarkozy et compagnie. Allez, ciao, c'était Patrice dans les Pyrénées-Audoises.
Daniel, salut, c'est Bernard d'Angers. Eh bien, écoute, voilà, nous sommes dans le cœur de la manif. Et bah, c'est sympa, il y a une bonne ambiance, c'est génial, il y a du monde sur Angers aussi. Et voilà, de Villepinte, bah, on voulait dire qu'on n'en voulait pas de ton CPE et de ton CNE, et c'est vraiment cool. Quoi. Ciao, ciao.
Voilà, en direct des Bois, un petit reportage de la manif anti-CPE. Il y a des trombes de flotte et pourtant énormément de monde. Et ça fait plaisir, des jeunes, tous les corps de métier représentés, une vraie solidarité qui tient chaud. Et puis, je pense que c'est qu'un début, vraiment. À bientôt pour la suite, ciao.
Oui, bonsoir Daniel, c'est Laurent de Nantes. Tu peux nous entendre, nous sommes actuellement avec les étudiants au MEDEF à Nantes. Je te fais écouter, nous occupons le MEDEF, je te fais écouter un petit peu. Voilà, nous sommes à peu près 200 à 300 personnes à occuper le MEDEF actuellement pour dire ni non au CPE, ni au CNE.
Il y a grève sur France Inter. Alors, il y a quelque temps, j'ai pris connaissance d'une analyse qui expliquait que la baisse d'audience qu'avait connue France Inter était due à la longue période de grève de la station en avril 2005. Eh bien, je voulais dire au directeur de France Inter et à celui de Radio France que si je reste fidèle à France Inter, ainsi qu'à France Culture et France Musique d'ailleurs, c'est justement parce que ce sont des stations qui peuvent être affectées par une grève. Ce qui signifie que le personnel peut encore y faire grève, non seulement pour des raisons qui touchent à la vie interne de ces stations, mais aussi parce que, et ça semble être le cas aujourd'hui, elles épousent les préoccupations de la grande majorité de leurs auditeurs. Moi, je me dis que si France Inter est en grève, c'est parce qu'il se passe dans notre pays des événements suffisamment préoccupants pour les Français, et donc pour les auditeurs, pour justifier la suspension des programmes habituels. Nous sommes à l'écoute de France Inter. En se joignant à la grève, France Inter prouve qu'elle est capable d'être à l'écoute de ses auditeurs, ce dont aucune station privée ne peut se prévaloir. En effet, les stations privées, elles ne sont pas à l'écoute des auditeurs. Elles font croire qu'elles sont à l'écoute des auditeurs. Mais elles sont à l'écoute des gens qui les financent et elles essaient de formater l'auditeur selon les besoins qui arrangent les annonceurs, quoi. Et puis, c'est pas de la caricature, est-ce que je dis? Je pense que ça se passe vraiment comme ça. Donc, sur France Inter, on peut encore faire des programmes qui ne sont pas prédominés par cette préoccupation, quoi. Et les auditeurs qui ne comprennent pas ça, ne les regrettez pas. Tôt ou tard, ils auraient quitté France Inter. Alors, bravo France Inter d'être en grève.
Salut Daniel, c'est Thibaut à Bordeaux. Donc ben voilà, là je suis dans la manif contre ce fameux contrat de première embauche qui va accentuer la précarisation des jeunes de moins de 26 ans, qui va les coller pendant 2 ans à la merci des patrons qui pourront les licencier pour n'importe quoi. Enfin bref, voilà, donc il y a vraiment du monde, c'est bien. J'espère que ça va avoir une influence sur le gouvernement, même si en ce moment on a plutôt l'impression que toutes les manifestations qu'on peut faire c'est pisser dans un violon. Mais bon, faut pas perdre espoir. Voilà. Bon allez Daniel, c'était Thibaut à Bordeaux, dans la manif du CPE. Et je précise juste que je suis étudiant, que je suis pas. Je vais plus être concerné puisque je vais avoir 25 ans et donc je ne pourrai plus être embauché en CPE. Mais malgré ça, je reste solidaire avec les jeunes contre la précarisation de l'emploi. Allez, salut Daniel.
Hey. Oui, salut Daniel et Christophe, c'est Jacqueline de La Rochelle. Beaucoup de monde dans les rues de La Rochelle aujourd'hui. Il pleut, verse, mais ça fait rien. Le CPE, on n'en veut pas. Écoute, les jeunes dans la misère, les vieux dans la galère, on n'en veut pas. de cette société-là.
Quelques réflexions sur le CPE, CNE et autres tentatives de précarisation passées et à venir. Ce ne sont que des outils qui visent non pas à diminuer le chômage, mais qui anticipent une situation à venir. En effet, tout le monde sait qu'il va y avoir des départs massifs en retraite dans les années qui viennent. Autrement dit, la situation du rapport de force entre patronat et employé va changer. Avec la précarisation à outrance, les employeurs, pas tous, il ne faut pas être manichéen, mais les voyous du MEDEF, espèrent conserver l'avantage qu'ils ont construit en privilégiant la rémunération de l'argent et donc le chômage. Il ne faut pas s'arrêter aux critiques de la présidente du MEDEF sur le CPE. Elle ne vise qu'à donner l'illusion qu'il n'y a pas de symbiose entre ce gouvernement UMP, on devrait plutôt dire association de malfaiteurs, et le MEDEF, comme au temps de Sellières. Mais quand on voit qu'elle n'a pas hésité, en Arabie Saoudite, à aller bien au-delà des requis protocolaires, en se couvrant d'un voile islamique, on en apprend long sur les capacités de soumission de cette personne. Elle est une insulte ambulante à toutes celles et ceux qui se battent pour les droits élémentaires des femmes et des hommes, et l'image de l'avilissement par l'argent. Bonne manif.
Ouais, salut Daniel, c'est Ben de Nancy. Alors je laisse un message pour te dire qu'on est encore dans la manif contre le CPE. Il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de mécontentement apparemment qui se manifeste dans les rues et ça donne un peu d'espoir pour l'avenir. Voilà, bien amitié à tout le monde et à toute l'équipe et puis à bientôt, salut.
Oui, alors ici à l'ICN du 47, parce qu'ici dans le 47, ça bouge, 500 lycéens qui sont prêts à se mobiliser aujourd'hui, parce qu'à la mort de la bureaucratie engendrée par cet État. Aujourd'hui, nous ne voulons pas des demi-mesures. C'est pour ça que nous avons sur ce répondeur. Voulez-vous coûter des lycéens? Nous irons jusqu'au bout. Et l'État, nous ne céderons pas à l'État dictatorial français. Nous serons mobilisés du départ jusqu'à la fin, parce que les députés qui ne peuvent pas voter alors qu'ils sont là pour voter ne passeront pas.
Alors voilà, je voulais vous donner un son en direct de Toulouse où on manifeste abondamment aujourd'hui et Toulouse est vraiment en résistance. Toulouse a envahi la mairie de Toulouse, donc sur la place du Capitole. Et là, il y a beaucoup d'étudiants, d'intermittents du spectacle aussi, dont je fais partie, qui manifestent. Et donc, je vais vous faire écouter un peu ce qui se passe.
Et ben voilà, ça vit, ça bouge, ça braille et ça chauffe dans le répondeur de la basse où j'y suis, des messages des quatre coins de l'Hexagone, de Nantes, de Pau, de Toulouse, du 47, je sais pas quel patelin du 47, Nice, La Rochelle, Bordeaux, Nantes, Évreux, Angers, Perpignan, Nice, Paris, enfin de partout. Vous avez laissé hier des messages sur le répondeur de la base si j'y suis. Et alors, curieusement, on n'a eu aucun message d'usagers en colère. Vous savez, comme on en entend dans des émissions normales, dans on en voit la télé ou dans nos... voilà. Eh ben non, il n'y en a pas eu. Le gars qui est pas content, la petite dame qui est pas contente, parce qu'elle peut pas prendre son train ni son bus, enfin voilà, bon, mais ça a chauffé quand même très très sérieusement.
Oui, bonjour, donc Panchika de Mouléon, nous étions 15 000 ce matin à Pau pour le retrait du CPE. Voilà, au revoir.
Je reviens de la manif donc à Nantes, que j'ai laissée en cours, puisque bon, j'en ai marre des manifs moutons qui font juste que défiler et qui vont pas en fait où on doit aller, style au MEDEF. Et donc c'était parce que voilà, j'arrive et puis j'ai de la musique sur France Inter, et donc ça veut dire qu'il y a des grévistes et comme moi, des gens qui sont peut-être pas concernés puisque je suis fonctionnaire. Donc bah, je voulais dire bravo et puis plein de gros bisous quoi. C'est bien de sentir qu'il y a d'autres gens qui sont solidaires de d'autres personnes. Je vous embrasse tous, ciao.
Je m'appelle Camille, j'ai 15 ans, je suis en seconde et reviens de la manif de Rennes. Je me bats contre le CPE depuis que j'en ai eu la description. J'ai participé à la première manifestation de Rennes, qui fut mon premier baptême de rue. Ensuite, nous, les lycéens, avons fait le blocus pacifique de mon lycée, la cité scolaire de Brocéliande dans le Morbihan. Cela nous a valu des menaces de plainte de la direction pour atteinte à la liberté de circulation. Ils ont appelé individuellement chaque parent, soit 480 appels dans la soirée. Devant ce coup de force, les professeurs ont vivement réagi par un tract de soutien rédigé à l'intention des parents d'élèves. Dans ce courrier, ils rappellent que les élèves grévistes ont fait preuve de beaucoup de responsabilité et que les désagréments causés étaient dérisoires. Voilà tout ce que j'ai fait contre le CPE, qui n'aura peut-être servi à rien. J'ai un regret, je n'aurai pas 18 ans en 2007. C'est pour ça que je compte sur tous les auditeurs pour voter contre ce gouvernement moisi qui veut nous pourrir la vie.
Ici, on défile tous les jeunes pour fête et on espère que dans la France entière, c'est la même chose. Malheureusement, j'ai l'impression que ce gouvernement ne changera pas grand-chose, même si on était 2 millions aujourd'hui dans la rue. Je ne sais pas comment ça va finir. Allez, salut.
À propos de la cause du droit du travail organisée par un gouvernement de nantis qui oublie qu'il n'est là que par les choix de Bernadette et de Claude et non pas par la volonté du peuple, je voudrais apporter mon témoignage. Durant ma carrière professionnelle, j'ai été licencié injustement 3 fois. Une fois, j'ai accepté une indemnité transactionnelle qui démontrait la faiblesse des arguments de mon employeur. Mais par 2 fois, j'ai pu aller, comme on dit, aller au prud'homme. Quel réconfort lorsque j'ai pu annoncer à ma famille par 2 fois que mon licenciement avait été reconnu infondé, qu'il n'y avait pas de cause réelle et sérieuse. Non seulement j'ai été rétabli dans mes droits matériels, mais en plus, les dommages et intérêts me confortaient dans mes droits moraux. Je n'avais plus à garder la tête basse de celui qui avait été viré sur des motifs fallacieux. Mais aujourd'hui, avec les contrats bidons, les salariés ne pourront être jetés et comme il n'y a pas de motif, ils ne pourront même plus avoir recours à la justice qui, bien que longue, le permettrait de ne pas conserver la queue basse.
Nous sommes mardi, hier, en fin d'après-midi, vers 19h, je regarde les infos régionales sur France 3, Rhône-Alpes donc, et un sujet est assez développé. Un arabe accompagné de son cousin est abattu par un homme apparemment ivre. Le cousin a été blessé et les déclare aux journalistes, il nous a traité de sale arabe avant de tirer. Et là-dessus, on apprend que le préfet a décrété que la cause de racisme n'était pas celle de l'assassinat. Alors, je me demande s'il n'y a pas deux poids, deux mesures entre certains assassinats qui déclenchent la médiatisation et la mobilisation nationale, et puis d'autres assassinats qui font même pas, qui sont même pas signalés sur les antennes nationales. À ma connaissance, télé ou radio. Je suis scandalisée. Voilà. Merci, au revoir.
Deux poids, deux mesures, trois poids, trois mesures. Il y en a eu plusieurs messages semblables à celui de cette auditrice pour s'étonner des indignations hémiplégiques ou des indignations à géométrie variable selon les victimes et leur prétendue ou supposée appartenance communautaire. Communautaire, communautarisme, c'est le grand mot, c'est le grand sujet. C'est vrai que les ressentiments s'accumulent, que la concurrence victimaire est repartie, une espèce de spirale évidemment sans issue, et le communautarisme, enfin ce thème très médiatique du communautarisme, et très politique au sens de la petite politique, de la politique du marketing électoral, c'est un excellent moyen qui évite de regarder tout simplement les vrais problèmes de notre pays, et qui ils sont l'emploi, la précarité, la montée des inégalités. On répète inlassablement ces mots, mais qui correspondent quand même, on l'a vu hier, à des choses. Ces mots correspondent à des choses. Mais parler comme je le fais, c'est être accusé de sociologisme ou de brandir l'excuse sociologique. On sait depuis quelque temps déjà que tout s'explique par l'ethnique Et le religieux, au moins on croit certains philosophes de premier plan. Alors contre ce communautarisme, pour tenter d'enrayer ce communautarisme, eh bien il y a des gens qui se battent. Il y a des gens qui se battent, et notamment des intellos, des intellectuels qui font leur boulot d'intellectuels, voilà, qui essayent de faire partager leur savoir, la vue qu'ils peuvent avoir, la vue d'ensemble qu'ils ont pour profession et pour état d'avoir. Et c'est ainsi que Esther Benbassa, que vous connaissez, et Jean-Christophe Attias, que vous connaissez aussi, si vous écoutez là-bas, si j'y suis de temps en temps, si vous lisez leur bouquin, si vous vous intéressez à leurs différentes interventions, organisent du 19 au 26 mars 2006 une semaine de rencontres, de dialogues, de musique, de forum, un grand forum, sur le thème de le pari du vivre ensemble, une semaine contre les discriminations et pour la rencontre des différences. Alors voilà, ça se passera donc à Paris, du 19 au 26 mars prochain. Et après les répondeurs, les messages qui vont suivre, on les retrouvera tous deux. Je rappelle le numéro du répondeur de là-bas, si je suis, mais vous le saviez bien, c'est le 01 56 40 37 37.
Le 8 mars, c'est la journée de la femme. Je voudrais rendre hommage à toutes les femmes du monde entier. Rendre hommage à celles qui nous ont permis des avancées fantastiques dans notre libération, entre autres Madame Simone Veil. Mais je voudrais surtout rendre hommage à une femme qui a eu le mérite d'élever ses enfants seuls et dont un d'entre eux lui a échappé pour avoir le destin qu'il a aujourd'hui. Sa vie a basculé du jour au lendemain malgré elle. Pour être propulsée face aux médias, aux journalistes, à la justice et dans les avions pour des voyages lointains au pays où est détenu son fils. Je ne veux porter aucun jugement du pourquoi ou du comment sur ce qu'a fait son fils. Je pense surtout à une femme qui se bat avec son chagrin de mère courage. Je vais parler d'Aïcha, la mère de Zakaria Moussaoui. Je l'embrasse et je lui souhaite bon courage. Au revoir.
J'appelle pour participer au jeu pour la cagnotte. Pour la question, c'était quel Français atteint de fatuité a traversé l'Amérique. Alors si je suis le premier auditeur rappelé, j'espère que je vais gagner. Et là, il est 15h16 et encore, j'ai eu du mal à trouver le téléphone, donc j'espère que tu seras tolérant. Je propose Bernard-Henri Lévy. Voilà, si c'est lui, merci pour la cagnotte. Et salut. C'était Pierre-Antoine de Cannes. En fait, je te laisse mes coordonnées aussi pour que tu m'envoies mon argent.
Et j'ai été très réceptive à la colère de Serge Halimi sur le livre du Froliquet et ses pérégrinations américaines. Mais en tant que libraire, j'aimerais faire remarquer que sans l'aide indispensable des libraires collabos, son livre ne connaîtrait pas la même diffusion. Voilà. Un jour viendra où les libraires indépendants refuseront de se faire des dollars sur une merde pareille. Ici, Tocqueville m'accompagne depuis 20 ans, mais la messe de BHV ne rentrera pas dans ma librairie. Voilà.
8 mars, journée de la femme. Du 9 juin au 9 juillet, il y aura la Coupe du monde de foot en Allemagne. Tout le monde se réjouit. Cependant, il faut savoir que l'on construit à côté du stade olympique à Berlin un complexe ultramoderne de 3000 m² sur 4 étages avec piscine, sauna, cinéma spécialisé, nommé pudiquement et hypocritement Héros sans terre, pour lequel des prostituées venant de l'Europe centrale et de l'Est sont recrutées. Elles seront 40 000 femmes réparties dans toute l'Allemagne. En 2006, nous en sommes là. Le marché du sexe est organisé légalement. Il y a du travail à faire.
Je continue à chercher du travail pour Tommy, mon bébé qui a 16 mois maintenant. Je parle doucement pour ne pas le réveiller. Je continue à envoyer le CV que je lui ai fait avec sa photo, un costard cravate. Et je continue à recevoir des réponses formatées du genre « Après une étude approfondie de votre CV, nous n'avons malheureusement pas de poste disponible correspondant à votre profil. » C'est sûr, un profil de bébé, c'est pas courant. La dernière réponse que nous avons eue émane de l'empire de la malbouffe. Ensuite, il s'est réveillé. L'honorable McDonald. Comme le dit si bien M. David Fontaine, un journaliste au Canard Enchaîné qui a écrit un article sur ce canular, après le CPE de Villepin, celui-ci fera le CPA, le contrat premier âge. Vous pouvez lire le CV de Tommy et quelques réponses et aussi l'article du canard sur le site de Tommy. Alors www.tommybayard.com, Tommy T-O-2-M-Y et Bayard sans D et sans reproche. Après la journée de la femme, à quand la journée des bébés? Et j'espère bientôt un premier entretien d'embauche pour Tommy. Ça serait vraiment rigolo. Alors à bientôt et vive les bébés chômeurs.
Salut, c'est Daniel Mermel. À Bassy, j'y suis avec Esther Benbassa et Jean-Christophe Attias. Le pari du vivre ensemble.
Flight number 2, arriving from New York.
Esther Benbassa, Jean-Christophe Attias, j'ai l'impression de voir deux, en vous regardant tous les deux nageurs à contre-courant. Vous organisez la semaine du 19 au 26 mars une série de rencontres, de dialogues, d'échanges sur le thème de le pari de vivre ensemble. Et aujourd'hui, où on voit cette escalade, ce que vous appelez la tyrannie des mémoires, la concurrence victimaire, l'instrumentalisation des mémoires, faire fureur, surtout depuis quelques jours, dans notre bel hexagone, on se demande pourquoi vous faites une chose pareille, pourquoi vous organisez une semaine pareille, Esther Benbassa.
On se le demande aussi, parfois, ces jours-ci un peu plus que d'habitude. On se demande pourquoi nous faisons cette semaine, qui est une semaine de lutte contre les discriminations, et surtout pour la rencontre des différences, donc le côté positif de la chose. Il n'y a pas que la discrimination, parce que le but, c'est de faire rencontrer les gens. Mais bon, c'est vrai aussi que c'est une sorte d'utopie, mais les changements dans le monde ne sont faits qu'avec des utopies. Nous essayons de montrer quelque chose, de voir si on peut arriver à se rencontrer. Je ne parle même pas de dialogue. Mais c'est vrai aussi qu'il y a un enfermement, un repli ces temps-ci qui nous fait douter même de ce que nous faisons et que nous préparons depuis plus d'un an et demi.
Depuis plus d'un an et demi, et vous récidivez, parce que là vous publiez en même temps un bouquin aux éditions de La Découverte, qui se réfère à une expérience analogue que vous aviez menée en 2004, où vous aviez essayé de faire un rapprochement entre juifs et musulmans, une histoire partagée, un dialogue à construire. Et qu'est-ce que ça avait donné déjà? Quel bilan vous faites de cette expérience, Jean-Christophe Attias, 2004?
Ah ben 2004, c'était une très mauvaise année, vous devez vous en souvenir, hein. C'était l'intifada, c'était les actes antisémites, la tension entre juifs et musulmans était à son plus haut, et c'est justement ce moment-là que nous avions choisi pour réunir des gens qui se parlaient plus, qui s'insultaient généralement. Ils sont venus, ils se sont parlés, le dialogue a pu avoir lieu, les salles étaient combles, et dans ce contexte très tendu, finalement, on a pu créer une bulle. Une espèce d'oasis de rencontre, de dialogue. Les gens se sont parlé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après cette initiative, qui a été une initiative positive, je pense, pour nous, pour les intervenants de tous bords qui ont pris la parole, et pour le public qui est beaucoup intervenu, cette initiative, elle a fait des petits. C'est-à-dire qu'après nous, d'autres ont lancé des choses comparables, s'inspirant un peu des mêmes principes. Et bon, c'est un travail qui était une réussite, mais en même temps, c'est un travail à toujours recommencer. C'est pour ça que nous sommes récidivistes. Il faut toujours reprendre le même ouvrage, enfin, et on recommence.
On a l'impression quand même... Non, je m'entête. J'ai l'impression vraiment que vous allez à contre-courant. On voit partout la montée de ce qu'on appelle les communautarismes. On voit chacun des groupes juifs, musulmans, noirs, homosexuels, que sais-je, s'enfermer dans leur identité, dans leur mémoire, dans leur martyre, et refuser les autres de plus en plus chaque jour. Ceci étant instrumentalisé évidemment par certains qui sont pas du tout innocents. Je pense à certains hommes politiques, par exemple. Ce que vous dites dans chacun de vos bouquins, dans vos interventions, dans les papiers que vous publiez ensemble ou séparément, à chaque fois vous reconnaissez à chacun le droit à la mémoire, la nécessité même d'avoir une mémoire. Vous faites bien la différence entre l'histoire et la mémoire, c'est un de vos trucs, puisque vous êtes historien, entre autres. Mais il y a un moment où il y a une instrumentalisation de cette aspiration à la mémoire, à la mémoire légitime, et on est dedans, là, on est dans l'instrumentalisation des mémoires. Esther.
Les communautés ont toujours existé, ce n'est pas nouveau. On venait d'Alger ou de Tunis, on allait à Barbès rencontrer des amis du pays pour s'installer, essayer d'avoir des créneaux pour trouver du travail, etc. Ce n'est pas nouveau, les communautés. Mais aujourd'hui, ce n'est plus du communautarisme. On est au-delà. Ce sont des sortes de nationalisme identitaire. Face à un nationalisme du centre, à savoir de la société dominante, qui s'enferme aussi, qui se rigidifie dans une sorte de retour au passé, de nationalisme revendiqué. Et en face, on a ces identités qui se revendiquent et qui, en plus, voudraient former des sortes de petites nations avec leur leadership, leur organisation. Et bien sûr, il n'y a pas de place pour tout le monde. Il n'y a pas de place. Et c'est là qu'on entre dans cette concurrence. Et nos politiques ont, quelque part, renforcé ces identités communautaires. Ils les ont renforcés parce que c'est une bonne carte électorale, parce qu'aujourd'hui, on peut gagner avec une différence de 30 000 voix. Alors, aucune voix n'est négligée et ces communautés formées comme ça sont facilement gérables par leur leadership. On sait avec qui discuter, avec qui négocier. Ce n'est pas une mauvaise volonté. Là, je trouve que c'est une aspiration au départ tout à fait normale d'avoir des interlocuteurs. Mais en même temps, on voit ici et là des dérapages communautaristes de la part des politiques aussi qui vont jouer sur la carte de l'insécurité lorsque ces communautés s'opposent les unes aux autres. Je ne dis pas que c'est machiavélique et c'est un complot, mais ça fait partie d'une nouvelle politique qui se dessine depuis quelques années.
Je prends l'exemple des Roms. Je viens de recevoir une invitation à participer au 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage des Roms de Roumanie, je crois bien. Et on est très sensible, nous, à cette histoire des Roms. On a fait beaucoup de reportages, on pense que c'est vraiment un monde qui est trop offensé, qui est trop oublié. Bon, voilà une commémoration. Je trouve que c'est important pour les Roms eux-mêmes, pour nous qui avons à découvrir ce qu'ils étaient, ce qu'ils furent, ce qu'ils sont, etc. Tout ça est bien. Mais j'imagine la suite. J'imagine la suite avec l'Europe qu'on est en train de construire, avec, je sais qu'il y a déjà des partis Roms qui se construisent, par exemple en Hongrie ou dans d'autres pays. Et puis, j'imagine que dans 10 ans, 20 ans, on aura un conseil représentatif des Roms de France qui exigeront, qui demanderont, qui pousseront, qui mettront la pression. Et à quel moment est-ce qu'on passe d'une mémoire légitime, légitime pour tous et nécessaire pour tous, au moment où il y a instrumentalisation de ces mémoires et de ces martyrs éventuellement?
Ce phénomène existe aux États-Unis depuis longtemps. La souffrance devient une sorte de baromètre qui permet à chaque groupe de revendiquer des droits. Mais aux États-Unis, vu que l'organisation de la société est communautaire, il y a une gestion beaucoup plus harmonieuse. Même s'il y a des couacs ici et là. Mais en France, du coup, nous sommes passés d'un État jacobin qui dit tout le temps qu'il n'y a pas de communauté, qu'il ne peut pas y avoir de communauté. Et de notre côté, on a alimenté un peu la communautarisation. Donc, dans ce paradoxe, se forment des communautés exigeantes, revendicatrices,
et concurrente.
Et concurrent, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Alors, c'est ça. Alors, chacun va dire qu'il souffre plus que l'autre pour avoir une place. Mais nous ne savons pas gérer ce communautarisme. Et c'est pour cela qu'il faut commencer dès l'école. Je suis pour une mémoire collective formée des différentes mémoires qui composent la nation. Et là, peut-être, c'est un remède à long terme pour arrêter ce communautarisme. Parce que le petit Français blanc doit connaître aussi l'histoire des Roms, l'esclavage, les génocides, la colonisation, la décolonisation, etc. Et aussi connaître l'autre, celui qui l'entoure dans cette sphère scolaire qui est plurielle. Et c'est ce pluralisme qui doit passer dans les mentalités. Et là, c'est une façon de contourner cette revendication identitaire, ces identités nationalistes, parce qu'elles n'ont pas de place. Comme elles n'ont pas de place, elles poussent le nationalisme du centre. Et là, on arrive à des vrais problèmes, parce que l'école n'est pas encore en mesure de faire cela. Et c'est pour ça que pendant cette semaine, on ne s'intéresse pas seulement aux grands de ce monde, aux patrons, aux intellectuels, etc., qui vont parler comment vaincre les discriminations, mais aussi on fait des interventions dans les écoles, on fait des ateliers pour les élèves, pour qu'ils aillent au musée juif, à Lima, qu'ils connaissent l'autre, on fait des parcours comptés. On est étonné qu'au parcours avec un compteur, ce soit les adultes qui s'inscrivent et pas, pas seulement les enfants. On voit qu'il y a ce besoin, mais c'est à long terme, et à long terme, nos politiciens n'ont pas le temps. Leur échéance, c'est 5 ans, et ils n'ont pas le temps de faire... C'est pas pour taper contre les politiques, hein, ce n'est pas un sport. Mais ils n'ont pas de projet, et sans projet, eh ben, nous aurons des communautés, et nous aurons à les gérer avec leurs commémorations, avec leurs revendications, ainsi de suite.
Cher Jean-Christophe, je vais vous raconter une petite histoire à propos de ces écoles. On a, avec l'équipe de la Basse Vie, suivi Leïla Chaïd, Michel Barchavski et Dominique Vidal, qui ont tourné, comme vous le faites sans doute de temps en temps, dans des écoles, à la rencontre des jeunes lycéens, d'un lycée professionnel. Je me souviens, c'était à côté de Marseille, à Gardanne. Et c'était formidable de les voir tous les trois expliquer à des jeunes, c'était des jeunes filles plutôt dans ce lycée. Qu'est-ce que c'est qu'un juif, qu'est-ce que c'est qu'un musulman, qu'est-ce que c'est qu'un palestinien, qu'est-ce que c'est qu'un arabe, toutes ces questions de base qui semblent réglées pour beaucoup. Ils mettaient tout ça à plat avec beaucoup de générosité. Ensuite, on est allé voir nous avec l'équipe les jeunes filles en question dans leur lycée l'après-midi. Qu'est-ce que vous avez retenu, ça vous a intéressé? Elles ont dit, ben oui, mais nous, on n'a rien contre les juifs, on n'a rien contre les musulmans. Pourquoi on nous dit ça à nous? Elles se sentaient culpabilisées, comme si elles étaient, elles, à la fois des collabos, des esclavagistes, des colonialistes, des antisémites, des islamophobes. Alors que, on dit, mais qu'est-ce que vous êtes, vous, finalement? Alors on en était là, réduit à demander, qu'est-ce que vous êtes? Que je trouve toujours une question navrante. Je préfère demander aux gens qu'est-ce qu'ils font. Nos parents sont espagnols, ils sont venus travailler dans le coin. L'autre d'origine italienne, une autre d'origine arménienne. Tout d'un coup, elles étaient accablées par ces questions. Elles voyaient pas du tout pourquoi on venait leur raconter tout ça à elles, qui n'y étaient au fond pour rien. Comme si elle n'existait pas dans cette affaire. Je dis ça parce que vous parliez des Français blancs. C'était pas des Français blancs. Je sais pas ce que c'est que des Français blancs. Mais elle se sentait un peu accablée d'avoir toutes ces culpabilités à porter. Elle se sentait visée par tout ça.
C'est un petit peu de ça que on essaie de sortir, parce que il est légitime que chaque groupe revendique la mémoire de ses souffrances passées. Mais la souffrance, c'est une petite partie de la mémoire d'une collectivité. On ne peut, et la souffrance, ça divise. Lorsque l'un souffre, c'est que l'autre fait souffrir, et donc la réaction de vos jeunes filles, là, elle est légitime, compréhensible. Ce qu'on veut faire, nous, pour sortir un petit peu de cette alternative, ceux qui souffrent et ceux qui font souffrir, c'est d'insister sur la dimension culturelle. C'est pour ça qu'on ne va pas parler que des discriminations. On va essayer de faire émerger un petit peu de la culture de ces gens-là. On va avoir, il y a quand même 4 ou 5 concerts, tout ça est gratuit, de la musique Chaabi, de la musique klezmer, donc juive d'Europe de l'Est, un peu mêlée de sons orientaux.
J'ai vu qu'il y avait un groupe qui s'appelle Abalabu.
Abalabu, ouais, c'est très sympa. C'est une chorale de non-professionnels constitués de RMIs, de sans-papiers, de chômeurs, qui sont de condition sociale.
Dirigé par un des musiciens du groupe Baobab, que les jeunes aiment beaucoup. Et ces gens-là, ils se retrouvent autour de cette chorale. Mais ce que tu dis est très intéressant, parce qu'on a fait un concours.
Merci.
De littérature.
J'aime bien quand tu me dis que c'est intéressant.
un concours de littérature dans les écoles. Et quand on lit les copies des mômes, c'est là qu'on est étonné. Ils ne sont pas du tout dans ce que nous pensons. Et le concours, c'était mon ami, mon voisin, l'autre, français ou étranger, blanc, rome, noir ou asiatique, chrétien, juif, musulman, croyant ou non. Et ils ont écrit des dissertations, enfin des sortes de petites rédactions. Et on lit ça et on se dit, est-ce que c'est pas nous qui forçons le trait? Et est-ce que eux, ils ne sont pas beaucoup plus ouverts que nous, parce qu'ils ne sont pas encore ni dans l'instrumentalisation, ni dans la manipulation, ni aussi dans la course des médias à faire de chaque. Enfin, on va pas. C'est pas pour critiquer les médias.
Oh non, bien sûr. Oh là là. Ce qui est pas les choses pareilles.
Ce qui est très. Non, il y a peut-être un petit peu de ça aussi. C'est qu'on force le trait parce qu'il y a un petit goût du sensationnel. On aime la violence, la barbarie, le sang, etc. Mais nous, ce qu'on voit, c'est beaucoup de bonne volonté, plus que des bonnes volontés, de véritables convictions. Ces jeunes-là, bon, le premier prix vient du lycée Chaptal, bon, très bien, le deuxième prix vient d'un lycée professionnel du 18e arrondissement, et ils sont sur la même longueur d'onde. C'est ça qui est intéressant, ils sont d'origine très, très diverse, ils sont là, sur la même longueur d'onde. Il y a une fibre humaniste, là, qui se fait entendre et qui n'a donc pas totalement disparu de milieux très très différents par ailleurs.
Oui, ben faut espérer.
Ah bah oui, c'est pour ça qu'on travaille. Donc est-ce qu'on est à contre-courant? Peut-être pas.
Hein? On est avec les mômes en tout cas. Mais il y a une autre question aussi qu'on oublie parfois d'aborder. C'est que s'il y a communautarisme, c'est aussi que les valeurs de la République ne sont plus porteuses. Et on les cherche chez soi.
On cherche la liberté, l'égalité, la fraternité chez soi. Tout ça est imaginaire, puisqu'on s'imagine être dans une communauté solidaire, mais les communautés ne sont pas plus solidaires.
Bien sûr.
Hein? Et c'est ça, il y a de ça quand même. Et quand on voit au 19e siècle, les immigrés, ou au début du 20e siècle, croyaient la France était le pays de la liberté. On venait, on s'installait là pour échapper aux persécutions. Et aujourd'hui, ces valeurs n'ont plus de sens. Est-ce que là aussi, on ne peut pas se dire nous n'avons plus de projets porteurs, de projets sociaux, économiques, culturels, porteurs, qui puissent réunir, rassembler la nation? Il y a de ça quand même. Et on n'est pas devenu communautariste sous la Troisième République. On devient aujourd'hui... Il faut quand même peut-être se poser ces questions aussi.
J'avais un prof de français qui nous faisait bien faire la différence entre être, avoir et faire. Voilà, être, avoir et faire. Je pense qu'aujourd'hui, peut-être qu'on peut trouver l'une des origines de ce communautarisme ascendant dans le fait que faire aujourd'hui, ça devient très difficile parce qu'on est dans une société d'insécurité, de chômage, de précarité grandissante, surtout chez les jeunes, on le voit avec les manifs actuellement. Et donc, faire, et puis on a aussi cette impuissance, ce sentiment d'impuissance qui se généralise. Donc, faire quelque chose, c'est difficile. Donc, avoir, ça devient difficile puisque l'avoir est au bout du faire. Donc, qu'est-ce qui reste? Il y a la position de retrait. Être quelque chose. Au moins, je suis quelque chose. Je suis quelqu'un.
Avec une identité forte.
Je suis quelqu'un avec cette identité. Est-ce qu'on ne peut pas trouver une piste pour expliquer ce communautarisme?
Le goût de l'identité, c'est le signe d'un appauvrissement, d'un repli, c'est clair. Mais en même temps, ce que nous voyons, et ce que nous avons vu pendant un an et demi, quand même, à préparer ça, c'est qu'il y a des gens qui font.
Alors, on va maintenant s'intéresser à votre programme, les paris, le pari de vivre ensemble. Pourquoi le S? Parce que ça se passe à Paris?
Oui.
Ah d'accord. Bon,
mais
d'accord.
C'est un pari quand même.
Ouais.
Sans S.
Le pari de vivre ensemble.
Il y a
ensemble.
Beaucoup de provinciaux qui s'inscrivent déjà, qui vont venir à Paris. Paris, ça sera la France pour une fois.
Une semaine de lutte contre les discriminations et pour la rencontre des différences. Donc, du 19 au 26 mars 2006 à Paris, vous avez un site qui est www.parisduvivreensemble.org.
Alors, ils ont un numéro de téléphone parce que la discrimination se fait aussi par... tout le monde n'a pas un ordinateur chez soi.
D'accord. 01 44 64 89 93. On le redira à la fin de l'émission. Puis ce sera sur le site de la base que j'y suis sur France Inter. Alors, le programme... Vous abordez un peu tout. Hein, c'est gonflé quand même. Hein, vous faites le tour. Ça se passe où d'abord? Ça se passe... aussi bien à la Sorbonne,
à
Lima, à l'Institut du Monde Arabe,
au Sénat.
Ça se passe au Sénat.
À l'UNESCO.
Ça se passe à la mairie du 11e.
À l'Hôtel de Ville de Paris.
Et à la mairie du 18e.
Bon. Et aussi dans les lycées. On a même un match de foot.
Match de foot mixte, c'est-à-dire mixte. Garçons et filles, et bien sûr de toutes origines.
D'accord.
La journée du samedi dans le 18e, justement.
Alors, les thèmes racisme, antisémitisme et islamophobie en Europe. Le conflit du Proche-Orient et ses conséquences en Europe, ses répercussions en Europe, ça c'est une histoire qu'on suit depuis des années.
Oui.
Racisme, antisémitisme et répercussions des conflits internationaux sur le vivre ensemble en Europe. Effectivement, il n'y a pas que le conflit du Proche-Orient. Je pense que quand certains jeunes dans les quartiers voient les images d'Abu Ghraib, de la prison d'Abu Ghraib, c'est pas fait pour apaiser les sentiments des uns ou des autres, par exemple.
Non, et ce n'est pas un modèle positif. C'est pas un modèle positif. D'ailleurs, on voit dans certains milieux que c'est l'anti-héroïsme qui domine aujourd'hui. Hein, ce sont des modèles négatifs.
Prenons un des moments à l'UNESCO le 21 mars, les médias et la lutte contre les discriminations. Pour vous qui suivez tout ça de très près, parlons un peu du rôle des médias dans tout ça. Dans quelle mesure les médias accentuent ces discriminations ou au contraire les éludent, les euphémisent?
C'est pour ça que je vous ai parlé des anti-héros. Aujourd'hui, on a vu ces derniers jours qu'il y a eu quelques cas d'antisémitisme. Mais c'est quand même l'anti-héros Fofana qui a joué un petit rôle. On est dans le mimétisme. Hein, il y a ce mimétisme. Mais à côté de ça, je me demande si les médias, en donnant plus de place aux composantes de la nation, qu'elles soient noires, arabo-musulmans, etc., à la télé, ça pourrait servir. Ça pourrait servir d'exemple, et d'exemple positif aussi, parce que on écoute la radio, on regarde la télé et on ne se voit pas. C'est comme à l'école, on étudie l'histoire, on étudie la géographie. Bon, la géographie en parle un peu, mais on étudie la littérature, on ne fait jamais allusion à un auteur arabo-musulman. On va voir que ces mômes, ils voient à la télé que l'islamisme, le fondamentalisme. On pourrait leur enseigner aussi ces poètes du Carpe Diem, ces poètes qui chantaient le vin, les beaux garçons, les fleurs, etc. Non, on a seulement les barbus. Il y a ça quand même. La télévision le renvoie, ou la radio le renvoie, une image négative d'eux-mêmes. Et la lutte contre les discriminations, c'est ça aussi, se voir soi-même à l'écran, ou s'entendre soi-même avec son accent aussi. Mais c'est le problème de la France. La France, on ne peut pas être noir et français. Il n'y a pas ce trait d'union. Ce trait d'union n'existe pas. Et cette absence de trait d'union se voit aussi dans les médias. On va pas les accabler non plus. C'est lié en l'ensemble d'une France qui n'est pas pluraliste. Elle est plurielle. Mais elle n'est pas pluraliste.
Les médias sont aussi le reflet de l'état général de la société. Il ne faut pas leur...
Ce serait bien s'ils étaient vraiment le reflet.
Non,
je crains qu'ils soient le
précise,
reflet,
c'est-à-dire qu'ils reflètent
monde.
L'état d'esprit prévalent. Voilà. Ça, c'est normal. Enfin, on a quand même voté une loi sur la parité en France. On a imposé les femmes. D'ailleurs, on n'a pas vraiment réussi. Mais je ne vois pas pourquoi on s'imposerait pas une discipline pendant quelques années. Hein, qui nous imposerait en quelque sorte de rendre visibles, oui, ces gens qui, issus de milieux immigrés, ont réussi, savent travailler, sont bons, et ça offrira des modèles positifs.
Comment vous avez préparé ça tous les deux? Parce que vous avez quand même beaucoup de soutien, vous avez des partenariats avec beaucoup de Arte, France Culture, Libération, Le Point, enfin vous avez beaucoup de monde qui est rentré dans l'affaire. Parlez-moi de ceux qui ne sont pas rentrés dans l'affaire et qui sont opposés à votre projet.
C'est vrai que les institutions communautaires ne nous ont pas soutenus. Elles pensaient que c'était trop diversifié. Cette diversité renvoyait une image négative à leur enfermement. Voilà, bon, on peut résumer comme ça. On ne va pas maintenant citer tous ceux qui ont rechigné. Mais en même temps, il faut dire qu'il y a eu aussi des individus. Alors, ces institutions abritent des individus. Et je crois davantage aux individus qu'aux institutions. Les partenariats se sont faits avec des êtres humains, des femmes et des hommes, qui ont écouté.
Esther, Jean-Christophe, on peut assister, n'importe qui peut assister à ces manifestations.
Sauf vous.
Bien sûr, nous. Bien sûr. Moi, je suis puni.
Sauf vous.
Même vous.
C'est pas possible.
À la promenade Comté.
Alors, c'est très
je vais
facile.
Vous amener à la promenade
Alors,
Comté.
D'abord, il faut savoir que tout est gratuit. Les tables rondes, les débats, les rencontres, les spectacles, les expos
films.
Photos, les films. Enfin, il y a plein de choses. Et il n'y a pas que de la parlotte, hein, y a aussi du spectacle. On va bien s'amuser, enfin c'est l'objectif. Tout est gratuit, il suffit de s'inscrire. Il suffit de s'inscrire pour une raison de simple sécurité, et puis voir un petit peu si nos salles, on ne déborde pas trop. Mais il n'y a aucun problème, on téléphone, on s'inscrit sur le web, on vient.
01 44 64 89 93, ou je le répète, sur le web www.parisduvivreensemble.org. Voilà, merci tous les deux.
Merci à vous. À vous.
Voilà, merci Esther Benbassa et Jean-Christophe Attias. Je rappelle encore une fois le site de cette semaine, le pari de vivre ensemble, donc www.pariduvivreensemble.org. Vous mettez un S à Paris, hein, www.pariduvivreensemble.org, et puis le téléphone 01 44 64 89 93 pour tout savoir sur cette semaine de lutte contre les discriminations et pour la rencontre des différences et assister à l'une ou l'autre de ces rencontres, débats, conférences, musique aussi, diverses et variées. Voilà, je pense que nos intellos là sont vraiment dans leur rôle à lire. Juifs et musulmans, une histoire partagée, un dialogue à construire, dirigé par Esther Benbassa et Jean-Christophe Attias aux éditions de La Découverte. Toutes les informations sont disponibles sur le site de Radio France à la rubrique émission. Là-bas, si j'y suis, technique aujourd'hui, Sophie Moreno et Patrick Henry. C'est Antoine Chao et Yann Chouquet qui ont réalisé cette émission modeste et géniale, il faut le dire, assistée de Pascal Yello et de Christophe Imbert. Le numéro du répondeur, c'est le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Et le mail de l'émission, c'est daniel.mermet@radiofrance.com. Et puis, lundi prochain, nous partons pour l'Inde et pour le Bangladesh, là où le Clémenceau n'arrivera pas, à Alang. On ira aussi à Delhi, et puis on ira aussi au Bangladesh, donc sur les chantiers de démolition des navires. Et puis on se posera la question de qui coud ma chemise, comment meurent les bateaux et qui coud ma chemise. Ce sera à partir de lundi prochain dans la basse, si j'y suis. Réclame.